Antoine Joubert, Germain Goyer, les vrais gars de char, le guide de l'auto.
Germain, aujourd'hui, on est en compagnie du président de l'Association des travailleurs en signalisation routière du Québec, l'ATSRQ. Je vais essayer de retenir ça, là. C'est quand même long comme...
Oui, effectivement, bon. C'est peut-être une bonne idée.
Voilà, alors on est en compagnie de Jean-François Dionne. Bonjour, Jean-François.
Bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien, merci, vous aussi?
Ah, ça
ferait
aller mieux.
Bon, ouais, c'est ça. On va parler avec vous, évidemment, du métier qui s'en vient de plus en plus dangereux. Hein. Je pense qu'on peut quand même parler ainsi, là.
Oui, c'est un métier très dangereux. On est tombé en 2016, on avait 41 accidents déclarés à CNSST. En 2020, on est arrivé à 104 accidents déclarés à la CNSST, mais on sait tous que. C'est pas tous les accidents sont déclarés vers la CNSST. Fait qu'on, nous, on croit qu'il y en a un petit peu plus que ça.
Puis évidemment, bon, il y a le nombre de blessés, mais il y a aussi des gens qui finissent par en décéder, malheureusement. Est-ce que vous êtes en mesure de nous peut-être donner quelques chiffres, quelques statistiques qui sont malheureuses en lien avec ça?
Ben, on a plusieurs décès là, de 2008 jusqu'à aujourd'hui, là, jusqu'à le 14 avril, on a eu une quinzaine de travailleurs décédés. L'année 2019 a coûté la vie à 3 signaleurs. En 2020, on n'a pas eu d'accident en 2020 mortel.
Il y a eu moins de chantiers aussi peut-être en 2020. Là, on sait que ça a été une année particulière, mais bon.
Oui, c'est ça. Puis en 2021, on a Pascal Cochon, mais c'est vrai, j'ai pensé, ben l'autre, c'est parce que on en a eu un en 2020, mais c'est un installateur de Jersey. Fait qu'il faisait pas la signalisation, mais il installait un chantier pour sécuriser les travailleurs de la les travailleurs de construction. Mais on peut le calculer comme travailleur de la signalisation vu qu'il installe les Jersey en béton qu'on voit sur les autoroutes. On a eu un en 2020, mais la CNSST, les autres l'ont calculé comme travailleur de la construction, là, mais okay. C'est vraiment un travailleur.
Bon. Et là, évidemment, il y a eu un décès. Il y a eu un décès récemment, le 4 avril dernier, de M. Cochon qui est décédé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les circonstances qui ont mené à son décès?
Bien, M. Cochon était après d'installer un chantier sur l'autoroute 20 en direction de Québec, en Cécile de Landover, dépassé Drummond. Il est après d'installer son chantier, puis malheureusement, il y a un poids lourd, un train routier qui a rentré dans la montagne d'impact. Il a frappé M. Cochon, il a frappé son pick-up, et le pick-up et la vanne ont fini dans le fossé. Puis M. Cochon, lui, s'est ramassé malheureusement sous la flotte, décédé sous le coup.
Est-ce que ce type d'accident-là pourrait être évité, autant dans le cas de M. Cochon que les autres signaleurs qui ont été blessés? Est-ce que c'est des accidents qui auraient pu être évités?
Oui, c'est tous des accidents évitables, oui. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de manque de courtoisie entre les automobilistes et le signaleur ou entre les automobilistes, les camionneurs. Le monde veut toujours être le premier devant ou pourquoi c'est moi, pourquoi c'est pas l'autre en arrière qui est stoppé. Mais si je regarde, moi j'étais en Ontario à quelques reprises au mois d'avril. En Ontario, le monde commence à se tasser à la première panneau, perte de voie, fusion de voie. Mais au Québec, on attend d'être rendu dans la moteur d'impact ou au premier cône avec la flèche oblique, dire au monde, ben là, la voie est fermée, tasse-toi, là. Ben, si le monde commençait à se tasser au premier panneau, on va dire sur une autoroute, là, habituellement, il y a un panneau 1,5 km avant. Fait que si le monde tasserait au premier panneau 1,5 de perte de voie, fusion de voie, ça donnerait la chance sécuriser un petit peu le chauffeur de la moteur d'impact qui est là, malheureusement, pour se faire rentrer dedans, mais c'est quand même plate pour comme travers se faire rentrer dedans, mais le monde devrait toujours commencer à se tasser de voie au moins 1 km avant ou 500 mètres avant, pas attendre d'être rendu dans le camion ou sinon au premier cône, parce que là, si vous mettez votre vie en danger et la vie d'autres travailleurs en danger.
Est-ce que vous croyez que pour régler cette situation-là, qui est vraiment malheureuse au Québec, puis qui devient évidemment de plus en plus importante, considérant la multiplication du nombre de chantiers sur nos routes, est-ce que vous considérez que ça prendrait une loi, comme on a fait pour la loi de de contournement quand il y a une voiture de police ou un véhicule
d'urgence. Le move
d'urgence. Over, hein? Le move over. Est-ce que ça prendrait une loi de ce genre-là, selon vous, pour régler définitivement ce problème-là? Parce que là, évidemment, il n'y a pas de loi spécifique qui nous oblige à se tasser de façon préventive comme on le fait lorsqu'on voit un véhicule d'urgence sur l'accotement, là.
Vous trompez, vous êtes dans l'erreur. Comme
ah ouais?
comme la 95% de la population, vous le trompez. La loi du corridor de sécurité que j'ai travaillé avec Pierre Moreau et l'Association des remorqueurs du Québec,
okay.
Puis les contrôles routiers, la loi était claire. Au début, c'était seulement les véhicules d'urgence. Mais si vous lisez le Code routier du Québec, ça dit tout véhicule muni de flèches lumineuses, clignotant allumé ou gyrophare allumé. Nous, on fait partie de ça. Si vous regardez les nouveaux panneaux du ministère des Transports qui installent au bord des routes, le ministère des Transports a décidé de mettre un pick-up du ministère des Transports sur un routier pour dire que tout véhicule muni de gyrophares et de flèches, on doit se tasser. Mais le problème, c'est qu'il n'y a jamais d'opération sur les chantiers de
police
de Québec. Si on arrête la Sûreté de Québec sur nos chantiers, qui interceptait tous les véhicules qui ne respectent pas la loi du corridor de sécurité, inquiétez-vous pas, le message passerait. Parce que dans la loi du corridor de sécurité, c'est bien écrit, tout véhicule muni de gyrophares, de flèches ou de clignotants allumés, il faut se tasser. Même si c'est une voiture personnelle qui est arrêtée dans la voie d'accotement, il y a ces clignotants allumés, vous devez vous tasser. Et pas seulement les véhicules d'urgence, c'est tout le véhicule.
Et pourquoi la SQ, selon vous, et peut-être les autres corps de police, ne font pas d'opération dans ce sens-là? Parce que, bon, on va souvent dénoncer le fait que la police va se cacher derrière un buisson, derrière un viaduc pour faire du radar, par exemple, et on remet en question notre protection de notre sécurité quand on a des opérations comme ça et qu'on se cache. Mais dans le cas de surveillance de chantier et de surveillance du corridor de sécurité, la sécurité d'humain est vraiment mise en danger. Pourquoi les corps de police ne sont peut-être pas plus proactifs de ce côté-là?
Un, manque de personnel. La Sûreté du Québec n'a pas assez de personnel. Et deux, ils s'en foutent des travailleurs de la signalisation. Pourtant, sur la Sûreté du Québec puis dans les corps policiers, le premier mandat, ils ont, c'est de sécuriser, protéger le citoyen ou les citoyennes. Nous, on devrait être inclus dans ça, protéger et sécuriser, et nous protéger. Mais sauf que quand on demande à la Sûreté du Québec, ils disent toujours qu'ils sont en manque de personnel et le ministère des Transports, à chaque année, envoie une subvention à la Sûreté du Québec pour se déplacer chez les chantiers. Mais la Sûreté du Québec a la carte blanche. Ils peuvent surveiller 3 chantiers s'ils veulent dans l'année, ils vont avoir leur foutu chèque. Nous, on demande au ministère des Transports, arrêtez de donner les subventions à la Sûreté du Québec. On veut avoir les chiffres réels. Arrêtez d'envoyer les policiers à temps partiel sur le chantier. Ça nous prend des policiers. Nous avons proposé au ministère des Transports de prendre des policiers cadets qui sortent de l'Institut de Nicolette. Pendant la première année, on les prend tous, ces policiers-là, puis on les forme sur les chantiers. Inquiétez-vous pas, si on les envoie sur les chantiers pendant un été au complet, ils vont être sensibilisés. Des policiers cadets sur les chantiers qui pourraient donner des étiquettes. Ils pourraient travailler de nuit, ils pourraient travailler de jour, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de policiers de nuit et le jour, ils sont appelés à faire d'autres appels que surveiller des chantiers routiers.
Ben moi, je vous dirais, j'ajouterais peut-être même que ce qu'on constate souvent, et je pense à un chantier notamment qui est actuellement sur l'autoroute 10, ce qu'on constate souvent, c'est qu'on va mettre des policiers en action au radar dans des zones de construction alors qu'il n'y a personne dans le chantier
Absolument.
En train de travailler, mais parce que c'est une zone de construction, les amendes sont doublées, donc c'est payant, et là, on cache. Alors, on met un photoradar, par exemple, on va mettre des policiers en place dans une zone de construction quand il n'y a plus un donné travailleur sur place et encore moins un signaleur routier pour remplir les poches des fonds publics, mais la sécurité des travailleurs lorsqu'il y en a sur place, bien là, c'est drôle, il n'y en a pas de policiers à ce moment-là, puis on ne regarde que la vitesse, mais non pas nécessairement les travailleurs qui sont sur place. Je vous avoue que j'étais dans l'ignorance de cette règle-là de devoir contourner un chantier, mais faut aussi amener le volet de la vitesse. Est-ce que vous considérez que c'est la témérité des conducteurs automobiles de rentrer à la dernière minute dans les rangs, ou est-ce que la vitesse, selon vous, est aussi un problème?
Ben, tu sais, c'est sûr que le monde, il respecte pas le 70 km/h. Fait qu'il roule 100 quand même. Puis les camionneurs, les autres, sont pluggés à 105 km/h, puis ils ralentissent pas sur un chantier. Ça passe à côté de nous autres. Ça passe tellement vite, là, les cônes bougent. Puis on le sait, quand on le sait que le véhicule est en haut de 70, c'est facile, nous autres, sur les chantiers, ah, le cône a bougé. Il a roulé en haut de 70. Imaginez que quelqu'un qui est après d'installer un cône orange dans son camion de plateforme, il voit le 53 pieds arriver, là, puis qu'il ralentisse pas. Il fait même pas semblant de se tasser de quelques centimètres. On se fait frôler les casses, on se fait frôler les cônes, on se fait frôler la main. Pensez donc que c'est quelqu'un de votre famille qui est en train de travailler à un salaire de moins que 20 de l'heure, qui fait ça pour protéger des travailleurs qui gagnent 30-40 de l'heure. Nous autres, on gagne 18,84 pour aller risquer notre vie. On veut revenir à la maison avec notre boîte à linge, voir nos enfants. Mais là, il y a 15 travailleurs depuis des années qui sont morts, qui sont jamais revenus. Imaginez le nombre d'enfants qui sont orphelins, le nombre de femmes qui sont orphelins. Ça détruit des familles au complet.
Ben, j'ai pas le choix d'être d'accord avec vous. Maintenant, je me permets de vous poser une question. Est-ce que dans certains cas, ce n'est pas plus risqué que de mettre un signaleur de chantier en place plutôt que de seulement laisser le travailleur sur place? Parce que des fois, on peut se poser la question, le travailleur qui est dans les airs sur un poteau, qui travaille à 3-4 mètres de distance d'une voie, bien, peut-être que lui est plus en sécurité et drôlement moins à risque que le signaleur qui, lui, est là pour indiquer qu'il y a un travailleur qui, finalement, est peut-être plus en sécurité que lui-même, là.
Je suis pas d'accord avec vous. Là, une couple d'années, on a...
Non, mais je vous pose la question, là.
Mais là, une couple d'années, on est arrivé avec un accident à police civile. Il y avait des signaleurs, le gars est en boisson. Il a frappé le véhicule du signaleur, mais il a fini sa course dans le camion d'Hydro-Québec. Les travailleurs étaient dans la nacelle en haut. C'est sûr que le camion de signaleur a amorti le choc, mais si le signaleur n'aurait pas été là, son camion n'aurait pas été là, le gars en haut dans la nacelle, à 20 pieds dans les hauts, dans les hauteurs, là, je suis pas sûr qu'il aurait été, il serait sorti indemne. Il aurait peut-être tombé en bas, puis on aurait eu un travailleur décédé. Mais parce qu'Hydro-Québec, des fois, il entrave une voie, des fois, il entrave la moitié d'une voie. Pour ça qu'il nous appelle. Puis moi, c'est seulement la courtoisie. Si vous voulez, imaginez que vous êtes en train de conduire, puis c'est votre fille qui est à l'avant vous. Vous allez faire attention, c'est la même chose. Pensez, c'est votre enfant. Et vous, je vous lance un défi. Je vous aimerais ça que vous veniez passer quelques heures sur une fermeture d'autoroute. Venez voir comment ça se fait, une fermeture d'autoroute, puis j'aimerais ça qu'on s'en parle les jours qui suivent après, là, votre expérience. J'aimerais ça que vous vouliez l'expérience de monter un chantier routier, là, pour, après ça, vous seriez peut-être le meilleur porte-parole vous pourriez facilement écrire un chapitre dans votre prochain guide de l'auto. Là. Il y a sûrement quelque chose que vous allez pouvoir faire. C'est le problème, c'est qu'on en parle seulement l'été, on en parle seulement quand il y a des accidents. Mais il faudrait que, au nombre de livres que vous vendez, des chroniqueurs de voitures, les émissions de télé qui parlent de voitures, les émissions à la radio qui parlent de voitures, s'il prendrait une fois dans l'année ou deux fois, juste faire un rappel, ça passerait beaucoup. Tu sais,
on le prend, là, le temps.
Oui, vous le prenez. Mais si vous mettez un paragraphe dans votre guide de l'auto, vous montrez l'accident, là, vous dites, j'ai passé une nuit à travailler sur un chantier, j'ai eu la chienne de ma vie. Le monde, au nombre de livres que vous vendez, là, ça va affecter pas mal de monde. Parce que malheureusement, on ne peut pas compter sur la Société automobile du Québec.
Je vous entends me dire ça. Puis ce que je comprends, c'est on peut en conclure que c'est peut-être une négligence ou un non-souci de la part de la Société de l'assurance automobile du Québec, encore une fois, qui ne fait pas son travail. Parce que là, si on considère qu'il y a eu plus de 350 blessés en 5 ans sur les chantiers et une dizaine...
C'est un réel problème,
une quinzaine de décès dans les 10 dernières années, c'est un sérieux problème. Puis on sait que la SAC tout ce qu'on veut à la SAC, c'est d'améliorer le bilan routier.
Ouais.
Tu sais, on ne comptabilise ironiquement que très peu le nombre de blessés sérieux sur les routes, mais le nombre de morts, ça, on y tient. On fait attention pour que ça baisse. Alors, ça serait peut-être un point intéressant qu'il faudrait soulever. Parce que moi, ce que je m'explique mal, et je reviens là-dessus, on ne se soucie, selon ce que vous me dites, que très peu de la sécurité des travailleurs, mais on donne des tickets en tabarouette à ceux qui vont excéder la vitesse permise dans une zone de construction et tout le temps quand il n'y a pas un donné travailleur sur place.
Et ça m'amène à vous poser une autre question. Ailleurs, en Amérique du Nord, on va souvent voir, juste à l'entrée de chantier, on va voir des panneaux d'affichage sur lesquels on va placer des clignotants et les feux vont clignoter lorsque les travailleurs sont présents. Jamais au Québec, j'ai vu ce type de signalisation-là. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que ce serait une bonne idée d'implanter cette signalisation-là au Québec? On voit ça souvent aux États-Unis.
Bien, je sais que présentement, le ministère des Transports va lancer des projets, dont un projet qui va avoir au début de chaque rang, ben, quelques chantiers. Ils vont tester ça cette année. Ils vont mettre un radar qui va afficher la vitesse que vous roulez, comme en Ontario, la vitesse que vous roulez, puis la vitesse recommandée.
Je m'excuse de vous couper, là, mais ce qu'on a besoin, c'est pas une suggestion ou un projet pilote de la part du ministère des Transports.
C'est des
actions concrètes, c'est des grosses lumières qui disent « warning, il y a des gens sur place, faites attention, redoublez de prudence ». Parce que là, on ne fait pas la distinction entre un chantier de construction et un chantier de construction avec des travailleurs sur place. Il n'y en a pas de distinction. Et Germain a raison là-dessus. Lorsqu'on s'en va dans l'État de New York, qu'on prend l'autoroute 87, bien, s'il y a un chantier de construction sur lequel il se passe rien, bien, il ne se passe pas grand-chose et on ne nous fait pas
Puis c'est correct que le chantier soit fermé le dimanche après-midi ou en pleine nuit, mais lorsqu'il y a des travailleurs, on veut le savoir et on veut mettre l'emphase là-dessus.
Oui, puis dans l'État de New York, attention, là, dépassez pas la limite permise parce que là, ça va être sérieux. Les amendes sont doublées et on va vous en donner une.
Ouais.
Alors qu'ici, c'est une joke, là. On profite du fait qu'il y a un chantier de construction. On se demande même si des fois on n'invente pas des chantiers de construction pour donner des amendes plus salées. Là. C'est pas des farces. Alors, je comprends très bien votre point, mais conscientiser les gens, c'est une bonne idée. Et évidemment, ça revient encore à la... Faut encore envoyer un message à la SAC de faire son travail.
Ça pourrait devenir carrément un volet supplémentaire dans le cours de conduite, par exemple, un volet de sensibilisation aux travailleurs routiers. Là.
Et je me permets allez-y.
Nous, on a proposé à la SAC, là, au ministère des Transports, parce que la Société automobile du Québec ne veut pas nous rencontrer depuis 2012.
Ils veulent on est vraiment surpris.
Sauf que nous autres, on a dit au ministère des Transports, dans chaque cours de conduite, il devrait avoir au moins un heure que la personne passe une heure dans son cours de conduite sur un chantier technique, l'Ozon, n'importe quelle école de conduite pourrait faire une entente avec une compagnie de signalisation. Montez-moi un chantier une fois par semaine. Je vais faire passer mes élèves dedans dans le cours de centre d'achat un dimanche. On fait un...
Mon cher, si vous saviez à quel point on est loin de là dans les écoles de conduite, on a de la misère à expliquer aux automobilistes qui prennent aux futurs automobilistes comment fonctionne un système de frein ABS avant qu'on fasse des mises en situation. À part un stationnement en parallèle, là, vous avez pas idée à quel point les écoles de conduite, on est arriérés, mais pas un peu, en termes de formation. Alors, je serais bien surpris, malheureusement, que ce soit des choses qui arrivent. Puis le nombre d'heures de formation au volant est très limité, hein, en passant.
Alors, il y a beaucoup d'heures en classe, oui.
Ouais.
Ben, en classe, ça fait quoi? Ils passent pas assez de temps à aller de c'est quoi un signaleur? Ils savent même pas c'est quoi la différence entre signaleur. Mais qu'est-ce que le monde devrait comprendre? C'est que le signaleur a le même rôle qu'un agent à la paix selon l'article 311 puis l'article 314.1 du Code routier. Le signaleur est considéré comme un agent à la paix et comme le brigadier est considéré comme un agent de la paix lorsqu'il est en fonction.
Effectivement.
Qu'on peut remettre des billets. Moi, je sais, j'en remets des billets. Quand le monde ne me respecte pas, j'ai la chance de prendre une photo, le numéro de plaque de la personne. Je vais en cours municipal, puis les juges, je commence à donner l'étiquette. Mais l'étiquette, c'est 380$ puis 4 points de mérite. On vous tue. Moi, je pense que le signaleur, l'amende devrait être aussi élevé qu'un autobus scolaire.
Ce que vous me dites, c'est que vous avez l'autorité de pouvoir émettre une amende?
Oui.
Au même titre qu'un brigadier, oui, par exemple.
Sauf que vous allez le faire par l'intermédiaire de la cour.
C'est ça. Il faut appeler la police, puis il faut remplir un constat. Eux, le policier va intercepter, il va aller voir l'automobiliste, ils peuvent pas l'intercepter immédiatement. Puis après ça, dans une couple de mois, ben tu reçois une lettre de la justice qu'il faut que tu te présentes à cour. Là, tu envoies en cour, tu expliques ton histoire, puis le juge, moi, dans mon expérience, à moi, le juge, il a toujours de condamner les chauffeurs.
Sauf que je comprends qu'en même temps, c'est pas votre rôle principal, puis vous pouvez pas faire la job de la police non plus. Vous êtes là pour assurer la sécurité des travailleurs. Si vous commencez à donner des amendes à tous ceux qui respectent pas, vous finirez plus, vous avoir une double job, puis là, ben votre salaire sera pas justifié.
Le monde ne prend pas en conscience la job du signaleur. C'est 12 heures, des fois 18 heures debout. Souvent, on n'a pas une toilette à côté de nous autres. On n'a souvent pas la chance de dîner ou souper sur notre chantier. On fait ça parce qu'on aime notre travail. On aime ça être à l'extérieur. On aime rencontrer du monde. Mais là, quand on voit les chiffres monter comme ça, là, en plus, on a une pénurie de personnel. Le monde ne veut plus venir travailler parce que qu'est-ce qu'il voit dans les journaux? C'est un décès de signaleur, les conditions de travail pourries, les automobilistes ne les respectent pas. C'est pas encourageant d'engager les jeunes aujourd'hui à aller travailler, dire, gamin, là, tu as une chance sur deux de revenir chez vous. Ils ne sont pas intéressés, les jeunes d'aujourd'hui, à aller faire notre métier. Pourtant, c'est le plus beau métier, là. On est à l'extérieur, on rencontre du monde, on aide, tout. Mais le contexte du travail fait que toutes les grosses compagnies de signalisation embauchent, mais ils sont pas capables de garder leur personnel parce que le monde vient tellement choquer voir leur façon que le monde les traite sur les chantiers. C'est affreux, là.
Bon, ben Monsieur Dionne, alors, merci d'avoir pris le temps. On va demander, évidemment, aux gens d'être courtois sur les chantiers, de ralentir à l'avance, de pas se battre pour être le premier en avant.
Et de respecter le corridor, effectivement.
Puis peut-être aussi envoyer un message particulièrement aux camionneurs, parce qu'on sait que immobiliser un Kenworth, c'est un peu plus long que d'immobiliser une Civic.
Effectivement.
Mais en attendant, moi, je me permets de vous dire que je vais relever votre défi et ça va me faire grand plaisir d'aller porter votre habit et de passer quelques heures sur un chantier pour voir comment ça se passe.
Je te confirme, Antoine.
Et de me faire fusiller des yeux par des automobilistes qui veulent pas me voir là.
Tu ne seras pas tout seul avec ton dossard orange. J'accepte le défi également.
Bon, alors, on reste en contact et on pourra organiser le tout et faire réaliser un petit vidéo pour le site du Guide de l'auto par rapport à ça. Alors, merci, M. Dionne, d'avoir pris le temps.
On va vous faire tester les deux métiers, l'installateur puis le signaleur. Vous allez voir que c'est deux conditions différentes de travail puis deux stress différents, mais on parle tout de la même chose.
Germain, tu vas être l'installateur, moi, je vais être signaleur.
Oui, c'est
on
ça.
On va se partager les tâches équitablement.
Oui, oui, me semble, oui.
Ça marche.
Merci, M. Dionne.
Bonne journée.
Bonne nouvelle.
OK, au revoir.
Merci, au revoir.